Aujourd'hui, aux ondes des Franco-oubliés, Alexis Normand, auteure, compositrice, interprète et cinéaste françaisoise de la Saskatchewan. Bonjour, bonjour Alexis, comment ça va?
Je vais bien. Bonjour, comment ça va toi?
Ça va bien, je suis super hâte de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait un bout depuis que j'écoute ta musique sur Spotify, puis je suis abonné sur tes réseaux sociaux, puis je vois tout le travail formidable que tu fais dans la francophonie canadienne. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui.
Ben, merci de l'invitation. Et c'est pareil, je te suis, puis j'écoute le balado depuis le tout début, donc c'est cool et un peu weird en même temps d'en faire partie maintenant.
Ben oui, c'est toujours cool de jaser avec du monde qui écoute les balados depuis le début, puis tout à coup, on envoie une invitation, puis ils sont comme « Wow! » Ben, on va commencer tout de suite avec la question que je pose à tout le monde. Quel est ton parcours avec le français? Ben, je veux que tu t'introduises un peu. Qui es-tu? J'ai dit ton nom, Alexis Normand, mais ben, on va commencer avec ça. Tu peux t'introduire.
OK. Ben moi, c'est Alexis Normand. Je suis une auteure, compositrice, interprète et cinéaste françaisoise. Je suis née à Saskatoon. J'ai grandi là-bas. J'ai passé beaucoup de ma vie en Saskatchewan et j'ai souvent quitté la Saskatchewan pour finalement retourner en Saskatchewan. J'ai étudié dans l'école francophone en ville, à l'École canadienne-française. Jusqu'à la 10e année. Et ensuite, j'ai décidé de changer d'école et je suis allée à l'Académie Rivier à Prince-Albert, à 1h30 au nord de Saskatoon, parce que c'était l'école où ma mère avait terminé ses études secondaires. J'avais le goût de faire quelque chose de différent, donc je m'étais inscrite à cette école-là, une école. C'était weird pour moi, c'était une école juste pour filles, en uniforme, c'était en anglais.
Wow.
J'étais pensionnaire, tu sais, j'habitais à Prince-Albert, donc c'était différent.
Yeah.
Et par la suite, j'ai voulu poursuivre mes études postsecondaires en français, donc je suis allée à l'Université d'Ottawa. Je suis restée pendant 5 ans, j'ai fait un bac en musique et en éducation. Et quand j'étais là, j'ai appris au sujet d'une école qui s'appelle l'École nationale de la chanson. Une
Okay.
école pour auteurs, compositeurs, interprètes, francophones, le seul au pays en fait. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une autre école qui existe comme ça, mais c'était un programme de 10 mois que j'ai fait à Granby. Donc, j'ai habité au Québec pendant presque un an. Et après ça, je suis revenue en Saskatchewan. J'étais prête à ce moment-là j'avais l'intention de contribuer à la communauté qui m'avait élevée, qui m'avait montré que faire la musique en français, c'est possible. Puis c'est là où j'ai commencé ma carrière en chanson. Donc, c'est pas mon parcours avec le français, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai hérité de mon père, mais qui vraiment a pris sa forme à l'école. Parce que le mandat de l'école francophone, c'est de construire l'identité francophone des élèves. Puis dans mon cas, ça a marché. T'sais, je m'identifie comme françaisoise aujourd'hui. Mais moi, je viens d'un foyer exogame. Ma mère est anglophone. Et mon père, lui, il est francophone, mais il est très assimilé. Il n'a jamais eu accès à une éducation en français. Donc, la langue du cœur chez nous, c'est la langue que, je sais pas, c'est ma sœur qui utilise ce mot-là, la langue du cœur à la maison,
Oui.
celle avec laquelle je parle avec mon frère, mes sœurs, mes parents, c'est l'anglais.
OK.
Alors, bon, il y a toujours eu une sorte de bilinguisme dans ma vie, mais je me suis toujours identifiée à la francophonie et j'ai pris mes choix de carrière et d'éducation en fonction de cette valeur-là, d'essayer de centrer le français dans ma vie le plus que possible.
C'est tellement cool ça parce que moi aussi, tu sais, comme la langue chez moi, c'est pas le français, c'est une autre langue, c'est le tamoul. Puis, mais malgré ça, pour moi, le français puis ma francophonie, c'est tellement quelque chose d'important que moi aussi, j'ai trouvé que des fois, il fallait prendre des décisions pour pouvoir continuer de vivre ma francophonie à l'extérieur de la maison. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de vivre ta francophonie quand toi, chez toi, tu vis un peu en anglais, puis quand tu sors en Saskatchewan, c'est sûr que c'est pas toujours que tu vas pouvoir t'exprimer en français.
pas vraiment. Et je pense que c'est parce que j'avais pas de point de comparaison avant d'habiter Ottawa ou le
Right.
Québec même. Pour moi, c'est juste normal qu'on parlait en français, en anglais à la maison et en français à l'école ou avec certains amis. Mais, et tu sais, même les premières chansons que j'avais écrites, je me souviens, j'étais comme en 10e année, puis c'était la première fois depuis. Je pense qu'on a eu un enseignant de musique dans mon école francophone deux fois. Une fois en 4e année, puis la deuxième fois, c'était en 10e année. Ou en 9e? Non, c'était en 10e année. Et tu sais, à l'époque, on était 9 élèves dans ma classe. C'était la plus grande classe de l'école secondaire. On était 40 au secondaire, puis les 10e années, c'était comme la classe avec le plus grand nombre d'élèves. Aujourd'hui, le nombre à cette école-là a comme triplé depuis mon séjour, même plus en fait. Mais à l'époque, c'était une petite école, puis tous mes amis avaient choisi la guitare. Moi, j'avais choisi la trompette. Et donc, il y avait comme plein de guitares autour de l'école, puis tous mes amis étaient en train de l'apprendre. Donc, je suis retournée à la maison un jour, puis j'ai été dans l'entreposage à la maison pour trouver la vieille guitare de mon père. Puis j'ai trouvé des vieux livres, un des Beatles, par exemple, qui avait les accords dedans. Puis je m'étais apprise à jouer la guitare. Et une fois que j'avais plus ou moins appris les chansons que je connaissais du livre des Beatles, j'ai commencé à écrire mes propres tunes, puis les premières que j'ai faites étaient toutes en français. Donc, je sais pas, comme dans ce sens-là, un choix de vivre ma francophonie, c'était sort of conscient, mais aussi naturel. Et c'était pas avant plus tard, quand j'ai décidé de faire carrière en musique comme pour de vrai, quand j'ai lâché ma job de survie. J'étais enseignante à l'époque. Que j'étais comme non, non, moi je veux faire ça en français parce que je voyais mon rôle comme artiste en société comme une des choses que je pouvais faire, c'était organiser des spectacles ou des événements où on peut venir ensemble comme communauté et vivre notre francophonie et vivre une expérience en commun. Et je crois toujours à ça aujourd'hui, que ces expériences culturelles-là nous donnent un terrain en commun. On vient de toutes sortes d'horizons quand on vient à un spectacle. Et quand on rit ensemble ou si on est touché par quelque chose, on est ému, si on vit ça ensemble, ça nous donne un plus de points en commun. Et pour moi, ça, c'est comme une terre fertile pour développer des communautés beaucoup plus tissées, serrées et peut-être plus inclusives aussi.
Absolument. Tu sais, comme quand j'étais en immersion, pour moi, mes premiers goûts de la francophonie, c'était par la musique. Puis, tu sais, comme les enseignants vont toujours chercher des façons à, tu sais, comme normaliser le français dans ta vie. Puis, souvent, ça se fait par la musique. Donc, est-ce que tu penses que, comme la musique a une place très importante à jouer dans nos communautés franco-minoritaires, spécifiquement en situation minoritaire?
Oui, comme n'importe quelle autre expression artistique. Je pense qu'une culture peut s'exprimer sous plusieurs facettes et même dans les sports, tu sais. Mais je pense que l'affaire avec les arts, c'est que le rôle de l'artiste aussi, c'est comme de réfléchir à. Dans mon cas, dernièrement, je réfléchis beaucoup à mon identité francophone et je réfléchis beaucoup à mon expérience en tant que Françaisoise. Et les tensions qui m'habitent et les doutes qui m'habitent. Et j'essaie de comprendre ça. Et j'essaie aussi de refléter cette réflexion dans mes chansons ou dans un film documentaire que j'ai fait dernièrement. Donc, le rôle de l'artiste, c'est comme se poser ces questions puis comme presque être le miroir sur une communauté. C'est une façon de se comprendre. Et je suis consciente de ça dans un sens, mais pas dans l'acte de création en tant que tel. Quand je suis en train de créer, je suis juste en train de m'exprimer, puis essayer de trouver les mots, puis rimer des trucs, puis trouver une belle façon de dire les choses compliquées. Mais quand c'est fini et quand finalement je peux présenter ça à des gens, à ma communauté, c'est vraiment touchant. Surtout dernièrement, parce que les nouvelles tunes sur lesquelles je travaille, que je lance, et le film, ça résonne beaucoup chez les gens. Vraiment beaucoup. Comme. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une prestation pour la FCCF. Et donc, il y avait des personnes, des gens de fonctionnaires, ou en tout cas des personnes francophones de partout au pays. Puis les commentaires, c'était virtuel. Donc, c'était en ligne. Puis les commentaires étaient genre, je m'attendais pas à brailler dans mon sandwich sur mon heure du midi aujourd'hui.
Oh
Mais Mais c'est des bonnes larmes, c'est pas des...
Yeah.
Ça veut... Je pense qu'il y a des thématiques qui sont difficiles, mais qui sont vraiment touchantes et qui peuvent nous rassembler. Et donc, oui, le rôle des arts là-dedans, c'est de nous aider à mieux comprendre ces points de
Oui.
tension et donc mieux se comprendre entre nous.
Yeah. Ça, c'est tellement beau. Je pense qu'il y a beaucoup de fois quand on parle de la francophonie, on pense immédiatement au militantisme, mais il y a aussi une joie d'être francophone. Puis, tu sais, comme la musique peut être vraiment le véhicule parfait pour communiquer cette joie qu'on vit en français. Tu sais, comme on n'est pas juste en train de comme chialer en tant que francophone, on est en train de comme vivre nos vies, rire, comme jouer, tu sais, comme toutes sortes d'émotions qu'on vit en français. Tu sais, comme pour certaines personnes, c'est leur langue de cœur, je vais me permettre d'utiliser cette expression-là. Justement, je voulais parler de ta nouvelle chanson qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a un thème vraiment important dans des tensions, des frustrations même dans cette nouvelle chanson. Donc, je voulais juste entendre tes perspectives, puis pourquoi tu voulais partager cette chanson-là.
Oui. Donc, j'ai une nouvelle tune qui sort bientôt qui s'appelle Le doigt dessus. Et c'était la dernière chanson que j'avais écrite dans une phase de création pour un album qui paraîtra plus tard cette année. Et plusieurs des chansons sur l'album explorent, je voulais justement parler des insécurités linguistiques ou comme des tensions qui montaient à la surface. Parce que en 2016, j'étais un peu tannée de la francophonie. J'étais comme, je vivais un, je sais pas c'était quoi exactement, mais j'ai comme lâché ma carrière francophone et je m'étais dit à l'époque que je le ferais plus jamais. C'était la fin.
Wow.
Et j'avais choisi de poursuivre un projet anglophone à temps plein au lieu, parce qu'avoir deux projets à temps partiel, c'était rendu trop, puis j'étais jamais à la maison.
Right.
Et la vie de tournée était juste rendue un peu trop stressante. Et durant la pandémie, mon projet anglophone avec Rosie and the Riveters s'est dissous. On avait vécu plein de belles choses, par exemple. On a fait des tournées à l'international, on a eu une belle couverture médiatique. Donc, durant la pandémie, une fois que je m'étais retrouvée encore toute seule avec ma guitare, j'ai commencé à écrire en français. Et là, soudainement, ces points de tension qui étaient très familiers, mais que j'avais oubliés, remontaient à la surface.
Intéressant.
Tellement que je voulais plus, j'avais peur d'écrire. Comme je procrastinais, je suis pas vraiment ce genre-là, mais j'avais comme, je trouvais toujours une excuse de pas vouloir m'asseoir avec ma guitare et adresser ces tensions-là.
Genre un évitement, oui.
Puis, je les comprenais pas non plus. Et ça m'a pris longtemps, longtemps de pouvoir les comprendre. Puis là, éventuellement, j'étais comme, Alexis, parle de ça. Parle du fait que je peux juste comme pas identifier c'est quoi ces points de tension-là. Je peux pas littéralement mettre le doigt dessus parce qu'à chaque moment où je pense reconnaître ça vient d'où, c'est comme si je me convainc, oh non, c'est pas un gros big deal. Donc, par exemple, il y a dans les paroles, il y a un couplet qui parle de me sentir comme je n'entends même plus mon cœur qui casse quand on traite de francophone de seconde ou de personne de seconde classe. Et c'est comme un bold statement. J'ai comme, j'ai un peu peur de dire ça parce que je suis une femme blanche, comme, je suis pas comme vraiment une personne de seconde classe. Mais en même temps, je me suis comme, quand je grandissais dans une famille exogame, on traitait ma famille un peu comme si on était moins bon. Et ma mère en témoigne. Dans un film documentaire, dans le film que j'ai créé, maman. Puis c'est pas que j'étais une francophone de seconde classe nécessairement, mais j'ai comme senti que j'étais jamais à la hauteur de qu'est-ce que la francophonie devait avoir l'air. Et la raison était parce que quand je grandissais, un des seuls modèles à laquelle je pouvais m'identifier en qu'est-ce qui était francophone, c'était avoir deux parents qui parlent français à la maison, un foyer francophone, et ça, c'était
Oui.
pas notre réalité francophone.
Right.
Et quand, il y a quelques étés, j'ai enfin parlé avec ma mère. J'ai dit, comment c'était pour toi, maman, de nous mettre dans une école francophone où tu comprenais rien et que tu étais à la limite pas vraiment invitée ou comme c'était pas un endroit accessible pour elle. Et c'est là où elle racontait des histoires où elle se sentait vraiment rejetée. D'ailleurs, on lui avait même dit, ben, tu fais pas assez d'efforts, vous êtes pas assez francophone.
Wow.
Donc, puis ça, c'était un secret, tu sais. Mais I picked up on it quand j'étais jeune. Il y avait toujours une tension weird à l'école. Mes parents, notre famille étaient toujours les premiers les premières à quitter, disons, un événement scolaire, tu sais, comme le concert de Noël. Ma mère disait, va chercher ton manteau, it's time to go. Donc, c'était toujours autour. Je pensais que c'était juste normal. Alors, quand je voulais comme exprimer ça dans la chanson, puis donc c'est ça, francophone de seconde classe, c'est comme une moins pure laine.
Ouais, c'est ça.
Et c'est tellement normal. Je vivais avec ça depuis tellement longtemps que c'est ça, je ressens même plus mon cœur qui casse quand quelqu'un me le rappelle. Même
Wow.
aujourd'hui, ça se fait encore.
Ça me
Genre.
donne, ça me donne vraiment des goosebumps parce que, tu sais, comme c'est tellement un vécu que moi aussi, j'ai juste comme, je suis devenu tellement insensible ou inside, like, c'est tellement normalisé dans ma vie que je me fais dire des fois que je suis comme, ah, t'es francophile, t'es pas francophone, ou genre des choses comme ça. Puis, tu sais, comme, ah, t'as pas des parents qui ont comme grandi ici en français, t'as pas des grands-parents qui ont lutté pour la francophonie, fait que toi, t'es pas francophone, puis, tu sais, c'est, je me suis déjà fait dire que comme en tant que jeune d'immersion française, je suis en train de diluer la francophonie, puis des choses comme ça, tu sais, comme maintenant, je suis tellement unfazed parce que je suis comme, OK, j'ai déjà entendu ça, like, what's new?
Right.
Mais ça devrait pas être le cas. Puis ça,
Non.
c'est tellement un sujet dont tu parles dans ton projet de film, dans ton documentaire French Enough que tu viens de produire. Peux-tu nous en parler un peu brièvement de ce projet pour ceux et celles qui n'ont pas écouté la bande-annonce? Moi, j'ai écouté des petits extraits, puis tu sais, comme j'ai vu l'extrait que tu as posté sur Instagram, puis immédiatement, j'étais comme, oh my goodness gracious, genre, je me sens tellement vu, je me sens tellement comme entendu, même si nos histoires sont pas tout à fait semblables, mais quelqu'un parle enfin à propos de ce sentiment d'imposteur francophone.
Oui. Donc, le documentaire s'appelle Assez French. C'est un film bilingue. Donc, en anglais, ça s'appelle French Enough. Et ce que je voulais, le film raconte en fait l'histoire de ma famille et comment on fait en situation minoritaire et dans une famille où il y a, dans une famille exogame, où le parent francophone est quand même assimilé, pas mal assimilé, comment on fait quand même de transmettre la langue et la culture à une prochaine génération. Et ça a été la première conversation en famille que j'ai eue. On a au sujet de la langue, l'identité, l'appartenance, tout ça. Et c'est un court-métrage. Le film dure 18 minutes, mais la conversation qu'on a eue a duré plus de 3 heures.
Wow.
C'était long. On avait beaucoup à dire et on n'est pas tous. Ma réflexion par rapport à ça, c'est on a ce modèle en tête de qu'est-ce qui est comme une famille, quote-unquote, parfaitement francophone. Et on, comme individu, surtout mes sœurs, et parce qu'on est quatre dans la famille, j'ai deux sœurs et un frère, chaque enfant, comment on fait pour comprendre notre identité francophone vis-à-vis un idéal qui, franchement, est inaccessible complètement pour nous, parce qu'on vient d'une famille exogame. Donc, tu sais, j'ai une sœur qui est enseignante et elle est maintenant enseignante dans l'école où on a grandi. Sa vie à les arts. Et mon frère, lui, il ne s'identifie pas francophone. Il comprend un héritage français de France parce que mes anciens sont venus coloniser l'Ouest depuis la France. Mais lui, il ne s'affiche pas comme francophone. Et on sait toujours que ça cause des tensions interfamiliales, mais malgré ça, on est capable de comme travailler ensemble. Et la nouvelle génération de ma famille, comme les nièces maintenant, parlent en français. Ma langue du cœur avec les enfants de ma sœur, c'est le français. On se parle toujours en français. Donc, malgré tout ça, à mes yeux, notre famille a fait des gains. On parle en français à la maison. Il y a du français. C'est pas toujours en français, mais c'est là. Et c'est
Oui.
beaucoup plus là qu'avant. Je voulais montrer une autre version d'une vie francophone que celle à laquelle on est tellement habitué de se faire montrer. C'est rare qu'on voit des familles exogames à l'écran. C'est rare de voir des francophones qui parlent de francophonie, d'identité francophone, mais en anglais. Mais
Absolument.
ça arrive dans l'Ouest, ça arrive tout le temps.
Yeah. Non, c'est tellement important, tu sais, comme de jaser de ces choses en anglais également, puis de montrer que, comme, pas tout le monde vit sa francophonie de la même manière, puis, tu sais, comme, le sujet du sentiment d'imposteur, puis tu en parles dans le documentaire, tu sais, comme l'extrait que j'ai vu, où tu dis que, comme, ta mère était anglophone, puis tu pars à l'Université d'Ottawa, puis tu te sentais comme tu pouvais pas t'affirmer comme Françaiscoise à cause du fait que ma mère était anglophone. Puis, tu sais, comme ça, c'est tellement puissant, je me sens. Tu sais, comme c'est tellement. I don't know, I can't put it into words. C'est juste tellement un sentiment avec lequel moi, je pouvais comme relate. Puis, je sais que beaucoup de jeunes en francophonie minoritaire, surtout dans les prairies, peuvent relate aussi. Puis, comment est-ce que toi, tu as surmonté ce sentiment d'imposteur? Parce qu'au début du podcast, tu te présentes quand même comme Françaiscoise aujourd'hui, mais évidemment, ça peut être toujours été le cas où tu pouvais comme si facilement juste dire, moi, je suis Françaiscoise.
Ben, et c'est ça la chose que j'ai pas compris, moi, par rapport à l'identité. Je pense à cause, ben, ouais, ce que j'ai pas compris par rapport à l'identité, c'est que c'est moi qui choisis. C'est moi qui ai le droit de m'affirmer comme je le sens. Et c'est pas à une institution, à une autre personne, à un festival de musique, à un journaliste, d'imposer une identité sur moi ou de l'enlever. Et la seule façon, ouais. Donc, le fait de me sentir imposteur, ça existe encore. Il y a encore des moments où je dois dire à haute voix que je ne crois plus en une hiérarchie de qu'est-ce qui est plus ou moins francophone, parce que ma tête a toujours de la difficulté à comprendre ce que mon cœur sait déjà. Je suis
Wow.
Françoiscoise, je suis francophone, et j'ai le droit de l'afficher parce que c'est comme ce que moi je m'identifie. C'est pas aux autres je peux plus me fier aux autres pour
Yeah.
me comprendre. C'est pas leur travail, c'est mon travail.
Oui. C'est comme moi aussi, j'ai dû vraiment me dire que comme oui, je suis assez francophone pour dire, je suis assez franco-manitobain ou assez franco-albertain pour me présenter comme ça quand je m'introduis. Puis, tu sais, comme je pense que comme c'est tellement important ça, de se trouver du réconfort à l'intérieur de nous-mêmes. Puis là, j'ai oublié mon train of thought, là. Puis, tu sais, comme d'arrêter de laisser du monde dicter ce que je pouvais. Comment je pouvais m'identifier. Tu sais, comme si je veux m'identifier comme Tamil Canadian, je peux m'identifier de même. Ou comme Franco-Manitobain, je peux faire ça, mais évidemment, j'assume pas une identité. Tu sais, comme des fois, je pense que pour moi spécifiquement, dans mon cas, ça a été difficile parce que, tu sais, il y avait du monde qui me disait, mais tu sais, comme ta famille n'a pas comme lutté pour la francophonie, tu peux pas juste assumer une identité culturelle, mais tu sais, comme je ne m'identifie pas comme Canadien-Français, je m'identifie comme francophone, je m'identifie comme interlocuteur d'une langue, comme membre d'une communauté linguistique. Puis ça, là, je pense que ce sont deux différentes choses. Puis oui, au début, pour moi, c'était très difficile d'être à l'aise avec cette identité. Puis constamment, quand tu te fais dire comme, ben, tu peux pas t'identifier de même. Ça devient difficile, tu intériorises ce que le monde dit autour de toi, puis c'est
Exact.
comme, c'est juste tellement dur. Puis le sujet d'imposteur, le sentiment d'imposteur francophone, je pense que c'est un sujet que je suis tellement content quand j'ai vu l'extrait sur ton Instagram que tu as mis, que j'étais comme, immédiatement, j'étais comme, wow, ça c'est un sujet qu'il faut enfin parler parce que tu sais, comme, c'est pas juste si moi je le ressens, puis si toi tu le ressens. Puis il y a toutes sortes de monde quand je parle ouvertement avec mes amis ici en francophonie albertaine. Tout le monde a vécu ça. Puis c'est juste qu'on n'a pas mis un nom à ce qu'on a ressenti, mais ça ne veut pas dire que c'était pas réel.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est
Yeah.
pas que c'est pas réel. Et en plus, Ouais, pour plein de choses. Je pense que... Oh, j'ai tellement de choses à dire maintenant.
Vas-y, all yours.
Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est je pense qu'en situation minoritaire, du moins selon mon expérience, c'est plus difficile de comprendre que l'identité est un choix personnel quand on a des institutions comme des écoles, par exemple, ou même, en tout cas, il y en a d'autres aussi, qui ont le mandat de construire notre identité. Donc, quand moi, je grandis dans un système où on me dit qu'on est francophone, mais que certains membres de cette communauté ne nous traitent pas à pied égal, it's mixed signals. Donc, c'est de là un
Absolutely.
peu que j'ai ce sentiment d'imposteur, parce que d'un côté du discours, on renforce beaucoup le fait que je suis françaisoise, et de l'autre, on me dit pourquoi je ne peux pas l'être. Donc, c'est toujours des sources extérieures, mais j'ai comme l'impression, et j'espère, peut-être je suis juste un peu naïve, mais moi, je pense que ça a beaucoup changé. Comme je vois mes nièces à l'école, c'est différent aujourd'hui.
Oui.
Je pense que c'est plus commun aussi d'avoir une variété d'expériences différentes francophones dans nos communautés, dans nos écoles. Donc, c'est plus commun, par exemple, plus commun de voir des familles exogames. C'est plus commun qu'il y ait des familles qui apprennent le français comme deuxième ou troisième ou quatrième langue. Et aussi de
Oui.
voir que toutes ces expériences-là vont enrichir notre expérience francophone dans nos communautés. Et c'est pas parce qu'ils sont nouveaux qu'ils font pas partie de cette lutte qui
Oui.
existe depuis des générations avant, tu sais. Comme on est là à cause de ça, on est tous là à cause de ces efforts-là. Et donc, ça
Oui.
va prendre tout nos efforts actuels aujourd'hui des gens qui veulent pour continuer et offrir ça aux générations futures. Donc, pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce qui est venu peut-être avant pour comprendre la communauté, mais en même temps, il faut aussi faire de la place pour les gens qui sont là aujourd'hui pour construire un avenir francophone pour les autres. C'est comme une continuation. C'est pas, on ne peut pas être figé dans le passé. On peut pas comme... De toute façon, le monde évolue trop rapidement.
Oui.
Et si la communauté évolue pas aussi, la francophonie, ben, qu'est-ce qu'on va avoir?
Yeah.
Sais,
Oh, c'est tellement une question importante.
il va pas avoir grand-chose.
Ouais. Yeah.
En tout cas,
Puis tu sais, comme
donc.
ça va finir par une francophonie comme très faible à mon avis même. Tu sais, comme en fin de compte, tu exclus du monde, puis on parle d'un déclin de la francophonie, tu sais, comme. Quand on ne veut pas ajouter du monde à cette communauté, non, like, non, c'est obviously, ça va être l'effet, je pense, d'une façon que la communauté va disparaître des fois même. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour parce qu'il y a tellement à unpack là. Non, for sure.
Oui.
Alexis, je
Mais
voulais
je pense.
parler de. Oh,
Oh oui.
vas-y. Non, non, vas-y.
Non, vas-y. Oh non, c'est bon, c'est quand. Je me souviens pas exactement.
OK, all good. Je vois juste, OK, on a 8 minutes ici avec le Zoom call. Donc, je voulais juste te poser, je voulais d'abord te féliciter d'être une des deux porte-parole des rendez-vous de la francophonie cette année. Le mois de la
Oh
francophonie
merci.
s'en vient. Puis, c'est la première fois qu'une personne d'expression française ou une personne françaisoise est à cet honneur. Puis, je voulais te demander, c'est quoi le message que tu veux communiquer dans ce rôle-là? Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'artiste françaisoise?
Oui, donc ouais, je pense que c'est la première fois qu'une personne de la Saskatchewan soit demandée d'être porte-parole. Ben pour moi, c'est un grand honneur parce que j'ai toujours grandi autour des comme les rendez-vous de la francophonie, c'est quelque chose que je connais très bien. Je sais pas si dans d'autres communautés francophones autour du Canada, c'est comme ça. Donc, je sais pas, je pense le fait. Ouais, de un, c'est un grand honneur. Et de deux, ça me permet de. Je vais faire une tournée autour du Canada avec ma nouvelle musique et mon film. Il y a plus de 32 événements entre la mi-février jusqu'à la fin mars,
Oh my
entre l'île du
gosh.
Prince-Édouard jusqu'à l'île de Vancouver et en passant par les territoires du Nord-Ouest. Donc, ça va être quand même énorme. Mais mon
Oui.
but, c'est de montrer tout ça et justement avoir des conversations un peu comme celles qu'on vient d'avoir pour célébrer la diversité et la pluralité des, comme au pluriel, des identités francophones, pour qu'on puisse comme dépoussiérer ça, ce dialogue. Et je pense justement comme ce sentiment d'imposteur fun est très, très commun, mais quand on n'en parle pas, on ne sait pas à quel point il y a des gens dans la communauté qui se ressentent de la même façon. Donc, je veux fournir des occasions pour qu'on puisse en parler ensemble. Et je pense que ces expériences-là vont, j'espère, nous rapprocher aussi. Alors, c'est ça mon but. C'est ça mon but en tant que
J'adore.
porte-parole, mais en général, avec ma pratique artistique, c'est ce que j'essaie de faire dernièrement.
C'est tellement un beau, une belle mission, je trouve, que de ce que tu fais. Puis moi, je trouve que moi, j'admire tout ce que tu fais. Puis vraiment, un grand merci pour tout ce que tu fais, mais spécifiquement pour ce documentaire-là, parce que, tu sais, comme je ne l'ai pas écouté encore, parce que ce n'est pas sorti, j'imagine, mais tu sais, comme de ce que j'ai vu des extraits, je me sentais tellement représentée, puis il y a un grand besoin pour ça, puis je veux juste te remercier pour être la voix des gens qui voulaient pas, tu sais, comme who were silenced for so long, essentiellement.
Ben, merci d'être là pour l'écouter. Je suis comme ça. Ça n'a pas été un travail facile, je peux t'avouer ça. C'est difficile de creuser dans la mais les choses qui valent la peine d'être dites sont difficiles des fois. Et
Oui.
je pense une réponse comme celle que tu as quand tu dis je me vois dans ton expérience, pour moi, ça m'aide à valider que cette démarche et que ce message vaut la peine et que je suis pas seule non plus, tu sais, dans mon expérience.
For sure. For sure. Puis je pense que comme
Donc,
les
merci
Francos-oubliés,
à
ben
toi
absolument.
aussi.
Ben, je pense que les Francos-oubliés en général, tous ceux et celles qui écoutent ce podcast vont pouvoir également se voir dans ce sentiment d'imposteur francophone. Je pense que c'est vraiment une expérience, une vécu que beaucoup de personnes minoritaires vivent. Puis, enfin, on va voir ça dans les médias, puis dans les arts. Puis, c'est un grand, une grande initiative, mais un bel accomplissement aussi. So, yeah. Ben, avec
Merci
ce, Alexis, je vais fermer notre conversation ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici avec moi puis de jaser des arts, de ton projet assez French ou French enough, puis en général de juste être tellement vulnérable avec moi aujourd'hui.
un plaisir. Merci pour l'invitation. Puis, alors, j'ai bien hâte à te suivre aussi dans tes démarches. Merci
Merci.
beaucoup.
Alright, à bientôt.
Salut!
Aux auditeurs des Francos-oubliés, j'espère vraiment que vous avez aimé cette conversation avec Alexis Normand de la Saskatchewan. Je vous encourage fortement d'aller checker son nouveau documentaire qui sortira bientôt. Allez checker sa nouvelle chanson que vous entendiez dans le background en ce moment. Puis allez checker sa musique en général sur n'importe quelle streaming plateforme, Spotify, Apple Music, vraiment n'importe quoi là. À part de ça, je vous demande aussi de partager le balado si vous aimez ce que vous entendiez. Partagez-le avec vos parents, vos enseignants, vos collègues, vraiment n'importe qui veut voir la francophonie épanouir, qui parle français, vraiment n'importe quoi là. Je vais arrêter de parler, puis je vous laisserai écouter la musique, la nouvelle chanson, la nouvelle tune d'Alexis qui s'appelle Le Doigt Déçu.